Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Anormal. Bonjour Caroline.
Bonjour Nassima et bonjour à nos auditeurs. Aujourd'hui, nous consacrons l'émission à l'agrégation et aux nouvelles réformes qui la touchent en ce début d'année. Pour parler donc de ces réformes, nous avons avec nous aujourd'hui Madame Rancurel. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes directrice du Centre de langue. Et Monsieur Frédéric Weiss.
Bonjour.
Vous êtes enseignant délégué au CID. Alors tous les deux, donc, vous faites partie du département des enseignements transversaux. Et nous allons donc parler des certificats, des deux nouveaux certificats qu'il va falloir posséder pour passer l'agrégation. Avant de passer à notre entretien, écoutons tout d'abord un édito de François Marteau.
Oui, bonjour. Enfin, bonjour, je ne sais pas si c'est le mot. Ça ne vous dérange pas si je continue à lire mes fiches pendant que je parle ?
Non, ça va. Vas-y.
Bon, alors moi, je suis un élève agrégatif en cours de désagrégation. Au fait, merci Caroline, merci Nassima de m'avoir invité. D'abord, je tiens à dire que ça me remplit d'une joie profonde que je pourrais comparer à celle que m'a inspiré la lecture du dernier jour d'un condamné. Et puis, ça me fait faire une petite pause entre deux révisions. Comme j'arrive pas à prendre ma pause tout seul, je demande aux gens de m'inviter. Ça me permet de déculpabiliser. Voilà, alors moi, je voudrais rebondir sur le sujet de l'agrégation, parce que j'entends tout le monde dire que c'est l'enfer, la fin de la vie sociale, la tombe avant l'heure, mais pas du tout. Moi, je suis ici pour dire les délices de l'agrégation, crier au monde mon bonheur, que dis-je, ma félicité. Je veux d'abord m'opposer vivement aux détracteurs du concours qui affirment que les postes ne sont pas assez nombreux vu le nombre de candidats. N'oubliez pas qu'une bonne partie des candidats disparaît avant même le début du concours pour des raisons de santé physique ou mentale. Rappelons toujours que l'agrégation, c'est avant tout une course au bonheur, un élan créateur, un aval pris dans les nimbes éthérées de la connaissance. D'ailleurs, je vais m'en reprendre un peu de l'éther. T'as mis mon flacon, Caroline ? Merci. Oui, je tiens à dire qu'il faut une hygiène de vie irréprochable. D'ailleurs, à ceux qui n'en seraient pas convaincus, je vais détailler mon programme de la matinée. C'est mon psy qui m'a conseillé de tenir un journal. Ça aide à combattre les angoisses et la schizophrénie naissante. Alors, 6 heures. Et oui, la journée d'un agrégatif commence avec les oiseaux, dans la joie et l'allégresse des matins qui chantent. Donc 6 heures, je suis réveillé par le bruit de ma tête qui est lourdement retombé sur le bureau après une nuit d'insomnie. 6h01, je bois ma tasse de café matinal et une pilule de Prozac pour faire passer le café. 6h02, pris de convulsion, je renverse ma tasse sur mes notes de cours. 6h03, je me rendors en essayant d'aspirer le café qui n'a pas encore totalement imprégné la feuille. 8h, je suis réveillé par mon radio-réveil. Je prends un jerrycan de café et 3 pilules de Dironzan pour faire passer le café. 8h05, je décolle ma joue de la feuille sur laquelle je me suis endormi. 8h10, je me lève, plein d'entrain et déjà tout habillé, ça me fait gagner du temps. 8h15, je marche sur quelque chose de mou et froid en traversant le salon. 8h16, je découvre le corps de mon colocataire, agrégatif de philosophie, qui s'est brisé la nuque avec un volume in folio de la phénoménologie de l'esprit. 8h20, j'appelle l'hôpital, pas pour mon coloc, pour commander une nouvelle boîte de Xanax. 8h30, j'arrive au collège Monseigneur où je donne des cours pour confirmer mon CAPES obtenu l'année précédente. 8h35, je reçois un coup de couteau à la cuisse de la part d'un élève à qui j'ai demandé l'heure pour noter ma dernière prise d'Effexor dans mon journal intime. 9h, je me réveille à l'hôpital. Le médecin me rassure. L'élève, dans sa grande bonté, avait pris soin de désinfecter la lame et de ne pas toucher de ligaments, ce qui aurait pu provoquer une fâcheuse opération. Heureusement, l'incident a été évité. Et puis, comme on dit, ajoute le médecin, qui aime bien, châtie bien. 9h15, l'infirmière de garde me propose une dose supplémentaire de morphine, au cas où. 9h30, en sortant de l'hôpital, je récupère la boîte de Xanax que j'avais commandée. 10h, j'arrive à l'heure pour le cours particulier que je donne à Thibaut, un enfant tellement doué selon sa mère qu'il s'ennuie en cours. 10h01, je réalise que le gamin est un hyperactif chronique. 10h15, je partage avec ce cher petit ma boîte de Xanax. 10h30, je lui injecte une dose de morphine pour le calmer. 10h45, j'essaie de le réveiller en le pendant par les pieds à la fenêtre. 10h46, les chaussures de Thibaut me restent dans les mains, foutu scratch. Thibaut réalise sa première chute libre de cet étage et scratch. 11h, je sors de la chambre en conseillant à sa maman de le laisser dormir, il a tellement travaillé le pauvre petit. 11h30, je reçois un coup de fil du recteur qui m'annonce la suspension de mon traitement. La cause, violence sur élève. En effet, en m'évanouissant suite au coup de couteau que j'ai reçu, je suis tombé sur un élève en lui assénant un coup de tête à l'arcade sourcilière. Midi, la Maïf m'appelle. Ma voiture a été endommagée par la chute d'un enfant sur le capot. 7 étages, ça fait des dégâts. Midi et demi, la police m'appelle. Ma voiture est à la fourrière. J'étais garé sur une place handicapée. 13h, j'arrive enfin à l'ENS. Je reçois mes notes de concours blanc avec ce commentaire encourageant. En nette progression vers le zéro absolu. 13h05, pause café. 13h10, pause Prozac. 13h30, Prozac, café, café, Prozac. 13h45, cognac, Prozac, Prozac, cognac. 13h50, cognac, cognac, cognac. 13h55, café, café, café. Et 14h, me voili, me voilou, youhou. Bienvenue à l'école Nirvanale supérieure. Agrégez-vous, qui disait, agrégez-vous.
Passons maintenant à la partie débat.
Donc, il y a à peine quelques mois, l'administration a annoncé aux élèves que l'ENS se lançait elle aussi dans une masterisation de l'agrégation dès l'année prochaine, c'est-à-dire dès la rentrée 2011. Ce changement brusque soulève des inquiétudes et des questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec nos invités.
Alors dorénavant, pour être agrégé, il faudra aussi être titulaire de 2 certificats, l'un en langue, l'un en informatique. Alors Madame Rancurel, pouvez-vous en quelques mots nous expliquer la nature du CLES ?
Bonjour, donc le CLES, certificat de langue de l'enseignement supérieur, est une épreuve de 3 heures qui vise 5 compétences, la compréhension orale, la compréhension écrite, la production orale, la production écrite et l'interaction orale. Mmh. Elle se divise en plusieurs parties, donc vous pouvez dès à présent regarder sur le site du CLES, il y a un site officiel CLES, pour vous familiariser avec la nature des épreuves. Il y a aussi un sujet type et cette épreuve se déroulera dorénavant à Lyon 2.
Donc vous avez dit qu'il y avait un site officiel, c'est CLES.fr ?
Voilà, CLES, vous tapez CLES, certification CLES et ça vous bascule immédiatement sur le site.
D'accord, merci.
Vous trouvez tous ces renseignements. Récapituler, donc ce que je vais dire est déjà bien résumé et les renseignements, tout ce dont vous avez besoin pour découvrir le CLES, vous le trouvez sur le site des langues, Centre de langue, donc www.centredelangue.ens.lyon.fr.
D'accord. Alors, vous l'avez dit, il y aura une partie qui va tester les aptitudes orales. Donc, on aura dans ces 3 heures une partie écrite et une autre partie orale.
Alors, c'est effectivement un sujet scénarisé qui débute par une compréhension orale en 30 minutes. Ensuite, vous avez un dossier de textes écrits de différentes natures. Ça peut être des textes extraits d'Internet, de la presse. Mmh. Bon. Et vous avez ensuite une interaction orale qui termine donc l'ensemble. J'ai oublié la production écrite entre la compréhension de l'écrit et l'interaction orale.
Et cette interaction orale, elle s'effectue avec d'autres élèves passant le CLES ou avec,
alors, effectivement, c'est une interaction orale en binôme. Qui est scénarisé, c'est-à-dire que c'est un jeu de rôle. Donc vous allez passer ça avec un autre étudiant qui vous aura été attribué de façon aléatoire. Mmh. Et l'interaction se rapporte au dossier sur lequel vous avez travaillé. Il y a donc une scénarisation de l'ensemble, les textes écrits, les extraits oraux. J'ai oublié de dire qu'il y avait 2 extraits oraux, hein, donc 30 minutes d'épreuve orale. Mmh. Qui se rapporte à deux, soit une vidéo, soit un texte audio, soit une vidéo et un texte audio. De toute façon, il y a deux documents oraux. Et l'interaction orale reprend le sujet de l'ensemble du dossier.
D'accord. Et en quelle langue pouvons-nous passer le CLES ?
Alors, le CLES, et j'ai oublié de dire une information importante, oui. Il existe différents niveaux de CLES. CLES 1, CLES 2, CLES 3. Là, nous parlons du CLES 2, qui correspond au niveau B2 de l'échelle européenne des langues. B2 étant le niveau dit indépendant. Mmh. Donc, vous pourrez le passer en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en portugais.
D'accord. Et au niveau de donc comment ça va se dérouler concrètement, il y aura un professeur, deux professeurs pour juger la performance, trois?
Alors non, il y a un enseignant face au binôme d'étudiants. Il y a, alors ce que je n'ai pas encore dit, c'est que pour ce qui est de l'interaction orale, nous sommes en train là de parler de compétences à interagir à l'oral et de compétences d'expression orale. C'est pas tout à fait la même chose. Et vous avez donc une épreuve qui est dans la spontanéité. On vous donne un jeu de rôle et on vous laisse prendre connaissance du contenu des rôles et vous commencez à interagir. Donc c'est une épreuve qui teste vos capacités à interagir dans la spontanéité.
De même, Monsieur Frédéric Weiss, pouvez-vous nous présenter le C2I, s'il vous plaît?
Alors, le C2I2E,
c'est donc le
certificat Internet et informatique niveau 2 enseignant. Les textes ne précisent pas s'il faut avoir le C2I niveau 1. Sur le C2I niveau 1, normalement, ça se passe plutôt dans le premier cycle universitaire, dès le début de la licence. On a quand même intégré l'idée que la plupart des étudiants de l'école n'ont pas le C2I niveau 1. Donc on a prévu des unités pour combler ce déficit. Et donc la partie C2I niveau 2, donc, les deux, le niveau 1 et le niveau 2, s'appuient sur deux référentiels.
Oui.
Alors ça, vous les trouverez en ligne sur le site du CID. Vous avez un référentiel donc niveau 1 qui liste un certain nombre de compétences. Bon, ça, pour regarder, on ne va pas détailler le niveau 1. Je vous engage, pour les futurs candidats à l'agrégation, je vous engage à lire le référentiel niveau 2. Vous avez en gros deux types de compétences. Compétences générales liées à l'exercice du métier.
C'est prometteur.
Et le deuxième, compétences nécessaires à l'intégration des TIS dans sa pratique.
D'accord. Les TIS, c'est quoi?
Donc, technologie de l'informatique et de la communication appliquée à l'enseignement.
D'accord.
En gros.
Et donc, pour valider le C2I, enfin le C2E... C2I2E, donc, nous allons y arriver. Ça se passe à l'école?
Alors, bon, la différence du classe, là, c'est l'école qui... Enfin, la direction des études a demandé au CID de mettre au point un dispositif pour préparer et valider le C2I2E. Donc, c'est du fait maison. D'où aussi la difficulté, c'est que tout est inventé à l'ENS.
D'accord.
Très concrètement, il faudra, par exemple, être capable de faire quoi, de styler un texte, ou ça va plus loin que ça, ça va être...
Alors oui, ça va plus loin. Donc on a mis en place un dispositif de 6 unités à capitaliser pendant toute la scolarité. Donc au plus tôt, dès la licence, et au plus tard, pendant l'année d'agrég. Les 4 premières unités reprennent grosso modo le niveau 1 du C2I. Il faut dire quand même qu'un étudiant, il y en a quelques-uns quand même chaque année, un étudiant qui a le C2I niveau 1 est dispensé des 4 premières unités de fait. Et puis les unités 5 et 6, c'est vraiment le niveau 2 du C2I. D'accord. Bon, ça, c'est pour l'instant, les choses risquent de bouger dans les semaines qui viennent avec le Master Pro. Je peux pas trop vous en dire. Par rapport à ce qu'on a dit au début de l'année, enfin, notamment en amphi en décembre,
il va
y avoir des
contradictions.
Voilà, les règles peuvent changer.
D'accord, c'est important à retenir que tout n'est pas fixé.
Voilà, je peux vous parler plus précisément des unités 1 à 4. Ça, c'est du classique, par contre.
Allez-y.
Donc, on s'est appuyé notamment en lettres sur les cours du CID. Alors, ces unités vont être valables, bien sûr, aussi bien pour les sites mono que sites Descartes. Donc, dans le détail, l'unité 1, c'est en fait... l'objectif de l'unité 1, c'est de vérifier que les étudiants ont le niveau de base pour suivre les unités suivantes. Donc, on va généraliser le test informatique qu'on faisait côté Descartes. On va le généraliser à toute l'école. Réussite au test égale unité 1. Sinon, on proposera aux étudiants de suivre un stage de rattrapage de quelques heures. Donc voilà pour l'unité 1. Alors, unité 2, justement, c'est centré sur le traitement de texte.
D'accord. Donc stylé, c'est là où on apprend à faire les... à mettre
les styles. Exactement, style, bon. Tape des matières automatiques, voilà, note de bas de page, index.
D'accord.
En plus, c'est un des piliers, sur le traitement de texte, c'est un des piliers du C2I niveau 1, donc on ne peut pas faire l'impasse là-dessus.
D'accord.
Oui.
Même pour les scientifiques, d'ailleurs. Ensuite, l'unité 3, l'idée, c'est maîtrise d'un logiciel spécialisé, on va dire. Alors, ça peut être propre à la discipline. Je pensais, par exemple, à la cartographie pour les géographes, logiciel de calcul pour les matheux.
D'accord.
Ou, bon, le CID propose aussi des cours
pour les autres.
Gestion de base de données, tableur. Hein. L'unité 4, alors c'est un peu le pendant d'unité 3, c'est au contraire prendre un certain recul sur l'aspect maîtrise technique. Donc c'est plus des cours qui apportent une réflexion, un point de vue critique sur des outils, un domaine spécifique. Alors bon, c'est encore un petit peu flou, mais on a quelques cours déjà en unité 4.
Mmh.
Voilà.
Et les 5 et 6 qui ne sont pas vraiment fixés.
Donc 5 et 6, on avait dit pour l'unité 5... alors l'unité 5, ça correspondrait donc aux compétences générales liées à l'exercice du métier.
Mais alors ça veut dire que dans le niveau 2, donc lié à l'enseignement, on va devoir être capable d'enseigner la base du traitement de texte ou c'est pas du tout de cet ordre-là.
C'est plus juste une capacité.
Non, je pense que, bon, du référentiel, notamment la partie B, que j'ai un peu compris, alors, je dirais pourquoi, en le lisant, c'est plus utilisation des outils informatiques en cours.
D'accord.
Donc,
faire des PowerPoints.
Qu'est-ce qu'il y a comme ressources
D'accord, oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire en maths, en français, en anglais, avec quels outils, organiser un cours, etc.
D'accord.
La hype plus générale, c'est un peu quel est, j'imagine, le dispositif informatique dans l'éducation nationale en général, et dans tel rectorat en particulier. Quels sont les problèmes juridico-déontologiques liés par Internet, etc.
Bon. D'accord. Alors, on va passer maintenant à des questions plus pratiques que certains de nos auditeurs peuvent se poser. Alors, par exemple, pour le C2E2I, est-il possible de s'inscrire aux cours accélérés qui auront lieu en juin si on ne veut pas passer l'agrégation l'année prochaine? C'est-à-dire, combien de temps, en gros, le certificat sera valide? Une fois qu'on l'a...
Bah, une fois que le certificat est validé...
C'est un certificat papier?
C'est un peu comme le CLES, c'est à vie, quoi.
Mais c'est des certificats papier?
Alors, il y aura un diplôme.
Un diplôme?
Oui, oui, oui.
C'est un diplôme national. Le CLES est un diplôme national. Donc, c'est pour ça que...
Et le C2E2E aussi?
Mais il y aura un diplôme papier délivré par l'école.
Et là, pour le CLES, délivré par Lyon 2, puisque Lyon 2 est l'université habilitée sur le pôle lyonnais pour faire passer le CLES et délivrer le diplôme.
Donc,
pour la question pratique, qui peut participer à la session accélérée qui aura lieu en juin?
Donc normalement, c'est réservé à ceux qui préparent l'agrég l'année prochaine.
Ouais.
Voilà.
Et ces dates, vous les connaissez?
Donc on les a pas encore fixées.
Non.
On va
mi-juin, quelque chose.
On y pense. Non, ce sera sans doute peut-être en mars.
Ah bon? Mais dans les mails que nous avons reçus, je crois que c'était en juin. Peut-être que
les dates du stage, ce sera effectivement,
oui.
Il y a une date, un gros week-end, genre jeudi, vendredi, samedi,
oui, voilà.
En juin. On va sans doute trouver un système d'inscription en ligne, quoi.
D'accord.
Une pré-inscription, pour qu'on puisse gérer les flux. Voilà.
Et pour ce qui est aussi des aspects pratiques, cette fois-ci du CLES, pouvez-vous nous en dire plus? Combien coûte-t-il? Quand aura-t-il lieu? À partir de quand faut-il s'inscrire? Et auprès de qui faut-il s'inscrire?
Très bien. Alors, le CLES vous en coûtera cette année 60 euros, qui est une somme que récolte Lyon 2, qui lui aide à organiser les épreuves. Le CLES, la date là non plus n'a pas été totalement arrêtée, mais il m'est dit par la responsable du CLES sur Lyon 2, Madame Maurer, qu'il aura lieu fin mai, début juin. Alors pour s'inscrire, vous avez sur le site des langues du centre de langue de l'ENS de Lyon. Je répète l'adresse, donc http centre de langue en un seul mot, langue au pluriel, .ens-lyon.fr. Vous vous trouvez, une fois que vous êtes identifié, vous avez entré votre login et votre mot de passe, vous avez accès au dossier CLES, et dans ce dossier se trouve le formulaire d'inscription à envoyer à Lyon 2, environ à la mi-mars, m'a-t-on dit.
Et Lyon 2 a un nombre de places limité ?
Je pense que là, il ne faut pas se faire de soucis. Lyon 2 acceptera. Alors, en priorité, évidemment, si la session s'avérait particulièrement populaire, ils prendraient de préférence les gens qui vont passer l'agrégation. Sachant que donc, cette année, il y a une seule session.
Oui.
L'an prochain, très vraisemblablement,
là,
il n'y a qu'une seule session. Voilà, toutes les langues vont avoir une seule session à la même époque du reste. Hein.
D'accord.
L'an prochain, il est envisagé, mais je prends des précautions,
deux sessions, donc en fin de
premier semestre et même chose à peu près.
Et donc, si pour une raison ou pour une autre, cette année, on est dans l'impossibilité de passer CLES, il faut attendre le semestre prochain.
Oui.
D'accord. Et il n'existe pas d'autres alternatives ? On ne peut pas passer d'autres certificats ?
Peut-être pour terminer sur le CLES, pourquoi Lyon 2 et pas une autre université ? C'est une question qui m'est parfois posée.
Ah oui.
C'est parce que nous avons des accords avec Lyon 2. Hein, l'ENS a des accords avec Lyon 2. Et si vous arrivez, pour passer le CLES, il faut normalement être inscrit dans l'université en l'occurrence à Lyon 2 pour passer le test à Lyon 2. Mais comme nous avons des accords avec Lyon 2, nous pouvons faire passer les normaliens à Lyon 2. En revanche, si vous allez taper à la porte de l'université de Nantes, de Marseille, je ne sais quoi, là vous ne serez pas élève de l'université, donc vous ne serez pas accepté.
Et y a-t-il un projet pour qu'un jour nous passions ce certificat à l'ENS, de même que le C2I ? Peut-être que
Pas pour l'instant. Pour le CLES en tout cas. Je termine sur votre question. Vous me demandez s'il y a d'autres certificats. Alors, est à l'étude en ce moment au ministère. On n'a pas de réponse, mais il se penche sur la question des équivalences.
Mmh.
Donc, équivalence au CLES. Dans le texte de départ, le ministère mentionnait le CLES ou équivalent. Donc, on les a interrogés sur ces équivalents.
Mmh.
Donc, pour l'instant, il n'y a pas de liste. J'ai...
Équivalent, vous pensez au TOEFL ou...
Le TOEFL, vraisemblablement pas le TOEFL, parce que parmi les équivalents donnés, il s'agit de certificats européen ou reconnu dans l'espace européen. Donc le TOEFL n'étant pas...
l'Institut Goethe.
Mais voilà, par exemple, alors, pour terminer avec l'anglais, c'était les Cambridge Exams, les certificats du Goethe-Institut. Bon, j'ai recensé sur le site des langues un certain nombre de certificats, mais à nouveau avec prudence, parce que pour l'instant, il n'y a pas de liste donnée.
Et si, situation encore pire, pour une raison ou pour une autre, exemple, une année à l'étranger pour les scientifiques notamment, on ne revient pas à Lyon avant septembre 2011, soit l'année de sa préparation à l'agrégation. Comment peut-on tout de même faire face à cette exigence d'être en possession des deux certificats ? Est-ce que ça peut nous pénaliser d'une manière ou d'une autre pour obtenir l'agrégation ? Ou est-ce qu'on peut les passer ensuite ?
Alors,
trois cas de figure, ceux
qui vont anticiper et qui nous vont... Bon, cette année, c'est un peu spécial, l'année qui va arriver, l'année prochaine, parce que cette décision a pris un peu de cours. Maintenant, les étudiants informés de cette nécessité de certificat vont pouvoir s'organiser, et j'encourage tous ceux qui peuvent passer le certificat 2 et le L3 de le faire. Ce qui laisse du coup un peu plus de temps, un peu plus de marge. Deuxième cas de figure, donc les étudiants qui sont à l'étranger, comme vous le disiez, dans l'incertitude qu'ils passent tout de même un certificat niveau B2 avec un autre organisme, ça serait déjà une bonne précaution s'ils ne peuvent pas passer le CLES cette année. Il leur restera l'année de l'agrégation, où je sais qu'ils auront d'autres chats à fouetter, pour ainsi dire. Là, bien évidemment, il n'est pas dit qu'ils doivent avoir le CLES avant de passer l'agrégation. Ce qui est certain, c'est qu'ils doivent avoir un certificat de langue de niveau B2 pour valider leur agrégation, c'est-à-dire au moment où ils vont être nommés stagiaires. À ce moment-là, pour valider l'agrégation, il faudra le certificat de langue. Mais ça veut dire que ça leur laisse un tout petit peu de marche s'ils n'ont pas passé le CLES, éventuellement de le passer après l'agrégation.
S'ils ne veulent pas enseigner tout de suite.
Voilà, par exemple.
S'ils ne veulent pas enchaîner l'année. Et pour le certificat informatique, ce sera la même configuration dans le calendrier ? On peut
À terme, normalement, les étudiants, donc je ne parle pas pour ceux qui passent l'agrég l'année prochaine, mais devront faire une demande de validation, donc tout ça sera en ligne sur une plateforme, enfin dans l'idéal. Ils devront dire je suis prêt à être certifié pour le C2I. Donc il y aura réunion d'un jury C2I, donc très officiel, hein, parce qu'on délivre un diplôme. Donc alors les dates en fin d'année, j'imagine, en juin ou plus tard.
D'accord. Mais à nouveau, si je peux me permettre d'insister lourdement, ne pas attendre l'année d'agrégation pour anticiper un maximum.
Le pôle langue déploie-t-il des moyens particuliers pour préparer les élèves de l'école au CLES ? Et donc, en tant qu'élève, on peut, quels sont les outils dont on peut se saisir pour passer le CLES ?
Alors, déjà, petite parenthèse, même si on va vous accompagner, on ne va pas vous laisser vous débrouiller tout seul, le site du CLES va vous expliquer qu'on ne prépare pas le CLES parce que le CLES certifie des compétences en langue acquises au cours de votre existence. On va tout de même essayer de faire un accompagnement. Ça a déjà pris une forme cette année. Nous avons mis en place des aides diagnostiques CLES où nous vous aidons à faire le point pour savoir si vous avez atteint le niveau B2 et si vous pouvez vous présenter au CLES. Alors, on fait ça en toutes les langues. On l'a fait un peu plus systématiquement en anglais parce que c'est là où on a le plus de grand nombre de candidats. Et pour les autres langues, je renvoie les étudiants auprès des enseignants. Donc, il faut être inscrit pour un cours, à un cours pour cela. Hein. Alors, ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Il vaut mieux quand on sent encore des faiblesses, quand on sait qu'on a des faiblesses dans la langue ciblée, il vaut mieux s'inscrire à un cours de langue. Ça me paraît le béaba. Je rappelle que les cours de langue sont semestrialisés. On peut s'inscrire en septembre pour un cours qui va démarrer fin septembre jusqu'en décembre et à nouveau en janvier pour un cours qui va vous amener jusqu'au mois d'avril. Donc il y a des cours de 22 heures. Certains cours de langue ciblent véritablement les 5 compétences. Donc, si vous avez des faiblesses, c'est ceux qui vous intéressent particulièrement. Mmh. Et puis, nous avons mis en place cette année, on verra comment ceci va évoluer, des ateliers CLES, qui sont des ateliers de renforcement, qui ne pallient pas l'absence de cours, je crois, qui sont complémentaires à un cours auquel vous pourriez être, vous pourriez déjà suivre, qui sont des ateliers de production orale et des ateliers de production écrite. Donc, des ateliers de 10 heures qui vous permettent un entraînement ciblé dans ce qui peut poser problème encore.
D'accord. Alors, vous allez peut-être me trouver très comptable, mais est-ce que tout ceci sera échangeable comme des ECTS ?
Non, alors les ateliers, non. Les cours de langue, oui.
D'accord.
Les cours de langue, oui. Un cours de langue, je rappelle, c'est entre 3 et 5 ECTS. 5 ECTS pour les niveaux qui commencent à niveau B1. Pour les niveaux débutants, c'est-à-dire dans cette fameuse échelle européenne des langues, les niveaux débutants, c'est A1. A2, c'est élémentaire. Je rappelle brièvement pour les auditeurs qui ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est que c'est A1, A2, etc. Donc A1 débutant, A2 élémentaire, B1 c'est le premier niveau du niveau intermédiaire, donc premier degré, et B2 celui qui est visé est le niveau d'utilisateur indépendant, donc intermédiaire 2. Il reste encore un degré dans l'échelle des langues qui est le niveau C1. C2 serait le niveau bilingue absolu, quoi.
Ça existe. Ouais. D'accord. Merci. Adressons-nous maintenant plus spécifiquement à vous, Monsieur Weiss. Au pôle informatique, ces nouvelles ont aussi été annoncées très récemment, comme pour les langues. Comment vous avez fait face à l'urgence ? Est-ce que vous avez mis en place des procédures d'équivalence, tel cours équivalent à telle unité de certificat ? Vous avez parlé tout à l'heure des étudiants qui maîtrisaient les logiciels de géomatique, par exemple, ou de mathématiques.
Voilà. Et puis, autre question, avez-vous adapté le certificat pour qu'il ne soit pas trop lourd pour ceux qui ont à passer le certificat en à peine 6 mois finalement? Avez-vous ajouté des cours en plus?
En à peine 6 mois, j'ai pas compris ça par contre.
Bah, c'est-à-dire qu'on leur a annoncé qu'ils pouvaient passer ceux qui n'avaient pas prévu de passer l'agrégation l'an prochain, mais à qui on a annoncé qu'ils pouvaient le faire en décembre en fait. Et qui ont choisi de le faire dès l'année prochaine, cela, il ne leur restait que 6 mois.
Après, c'est du cas par cas.
Oui, bien sûr.
Il y en a beaucoup qui ont suivi des cours du CID, donc tous les cours du CID donc, ont une équivalence C2I, donc
ouais.
Ça, c'est une chose. Sinon, on a, par l'intermédiaire d'Éric Bordas, dans la direction des études, on a demandé à tous les directeurs de département de flécher justement les cours dans leurs différentes disciplines. Cours qui pourrait équivaloir une unité C2I,
ouais.
Essentiellement unité 3, voire unité 4. Donc on a déjà quelques réponses. Donc ça va, tant que l'information remonte, tout ça sera officialisé dans la base scolarité. L'étudiant verra clairement dans le libellé du cours, équivalence,
d'accord,
unité 3, etc. Après, pour les étudiants qui n'ont pas le C2I au moment où démarre la rentrée de septembre, la grecque. Après, il faut voir ce qui leur manque. Hein, pour les unités 5 et 6, je vous ai dit, ça risque de se régler pendant l'année d'agrégation. Il n'y a que Éric Bordas qui pourra vous dire ça plus précisément.
D'accord.
Pour les unités 1, 2, 3, 4, c'est du cas par cas. S'il manque une unité, c'est pas dramatique. C'est possible de la rattraper pendant l'année d'agrégation, j'imagine. Puis on fera aussi de temps en temps des stages intensifs.
D'accord. Et donc, comment individuellement aujourd'hui peut-on savoir combien on aurait obtenu à peu près d'équivalence et combien il nous en reste? Est-ce qu'il faut s'adresser à nos directeurs de département, à vous? Est-ce qu'il faut attendre un petit peu
Si un étudiant veut faire le point sur sa situation,
voilà.
Très bonne question. En gros, on ne sait pas faire le point pour tout le monde dans l'école.
D'accord.
Donc, nous, on connaît relativement bien le site des cartes parce qu'on voit passer les étudiants chez nous. Majoritairement, donc on a notre base de données perso, et puis donc vous écrivez au CID, et puis si vous êtes passé par le CID, dans les cours du CID, on vous donnera le bilan depuis 2-3 ans. Pour les scientifiques, on ne sait pas encore pour l'instant déjà recenser le nombre de candidats, etc.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci à vous deux. Et donc, on le rappelle, quelques sites importants. Tout d'abord, le site de Centre des langues donc, que vous trouvez sur la plateforme ENS, donc Centre des langues, langues au pluriel. Également le site du CLES, donc CLES.fr. Et puis, donc vous adressez au CID pour toutes les questions donc, autour du certificat informatique.
Voilà. Bon, alors, l'adresse est CID.ENS-LSH.fr.
Et c'est très important, c'est LSH et pas Lyon.
Voilà, ça bientôt sera Lyon, mais on est encore en LSH.
D'accord. Et par contre, pour Centre des langues, c'est bien sur ENS-Lyon.fr.
Absolument.
Ouais. Merci à vous.
Et merci.
Bonne journée. Passons maintenant à l'agenda de la semaine, une sorte de version écrémée de tous les courriers que vous recevez dans votre boîte surchargée en quelque sorte. Mais Nassima et Caroline sont là pour faire le tri.
Très bien. Alors comptez sur nous. D'abord, notons qu'un séminaire d'études hispaniques médiévales du CIHAM, dirigé par Carlos Hoich, Georges Martin et Denis Mongeau, aura lieu le 18 février 2011 de 10h à 16h30 à l'ENS de Lyon, évidemment, au site Descartes. Donc ici, 7e salle, R20.
Voilà, ça c'est exactement le genre de mail que vous n'auriez pas lu, mais Nassima vient de vous le dire. Par contre, vous n'aurez pas à manquer la nouvelle soirée de l'ENS proposée par la commission conférence, avec un débat entre donc Mgr Philippe Barbarin et Henri Pena-Ruiz sur le thème « La laïcité aujourd'hui ». Donc cela se passe justement ce soir, aujourd'hui, le mercredi 16 février 2011 à 20h, c'est à l'amphithéâtre Mérieux, donc sur le site Mono. Voilà, et c'est proposé par la commission conférence.
Soirée de l'ENS, tu as cru que c'était une annonce du B2, Caroline? Parlons maintenant des rencontres alter-idées, soit une journée de conférences, débats et tables rondes dont l'objectif principal est la promotion de l'esprit critique, la déconstruction des prénotions et la remise en cause de la pensée dominante. Tout un programme. Pour ce faire, différents sujets de société ou liés aux sciences humaines seront abordés. L'événement aura lieu cette année sur le campus de l'ENS de Lyon, le jeudi 31 mars 2011. Événement public, les rencontres altéridées s'adressent à tous les étudiants lyonnais. 1500 participants sont attendus. Débats, conférences et différentes activités rythmeront la journée qui sera clôturée par une soirée conviviale. Fin mars, l'équipe de Transistor consacrera une émission, voire plusieurs, à cette rencontre. Soyez au rendez-vous.
Et puis, ne manquez pas non plus la dictée ECE qui se déroulera cette année le jeudi 17 mars 2011. Donc, cette dictée est conçue par Lynn Saumant. Elle est linguiste, professeure associée à l'Université Sorbonne Nouvelle, donc Paris 3. Et Lynn Saumant est également la fondatrice des Dicodors. La dictée s'inscrit donc dans le cadre de la semaine de la langue française. Et cette semaine est organisée par le ministère de la Culture et de la Communication et bénéficie du soutien renouvelé de la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. Bizarrement, elle n'est destinée qu'aux élèves ingénieurs et scientifiques. Alors, vous avez peur de nous ?
Enfin, une dernière date à retenir, la représentation le 22 février 2011, Salle Cantor de Charles VI, une pièce dans laquelle joue un de vos chroniqueurs de Transistor, Julien Baron de Ansos. Charles VI est une comédie sur un roi de France fou, incapable de gérer son royaume. Alors que la bataille d'Azincourt arrive, que les Anglais sont en passe de gagner, ses conseillers et la reine tentent de gérer les affaires d'une France à l'image de son roi, folle. La pièce est écrite par Guillaume Coe, mise en scène par lui et Louise Mutabazi, et aura lieu, je le répète, le 22 février 2011 en salle Cantor.
Bien sûr, vous êtes des auditeurs attentifs et vous avez remarqué qu'on ne vous a pas encore parlé du gala qui se tiendra le 18 février à l'ENS. Vous pouvez acheter, je pense qu'il reste encore quelques places, des entrées à la cafette ou sur le site Mono. Voilà, ce numéro d'Anormal s'achève. À bientôt pour une nouvelle émission qui promet d'être riche en surprises, car sûrement effectuée en duplex de la Roumanie. Ne manquez pas ça. Parmi les autres émissions, n'oubliez pas d'écouter le dernier numéro de l'Instant Poétique, avec un Roméo plus en forme que jamais, et 20 minutes d'histoire qui propose entre autres une interview de Sylvain Guggenheim, professeur d'histoire à l'ENS. À bientôt.
À bientôt.